Bloc Documentaire présente L'Atelier du Réel.
Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du Bloc Documentaire. Un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Et aujourd'hui, c'est pour un voyage ferroviaire et cinématographique que nous vous invitons, en compagnie de la cinéaste Éléonore Gilbert, qui vient converser avec nous de son dernier film, Tint le paradis ou la balade d'Héloïse. Voilà, le train est à l'heure, je le vois qui arrive en gare. Il s'approche pour quelques secondes d'arrêt. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Allez, c'est parti. Soyez les bienvenus.
L'inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Bonjour, Éléonore Gilbert.
Bonjour.
Alors avant de parler plus précisément de votre filmographie et surtout de Tint le paradis ou la balade d'Héloïse, permettez-moi de vous présenter. Vous avez fait Sciences Po à Grenoble, étudié une année en Espagne, puis pendant 2 ans à l'ESSAV à Toulouse. Vous avez ensuite réalisé des films institutionnels et des captations de spectacles, avant d'effectuer une résidence d'écriture à l'USAS, ce qui vous a permis de trouver votre chemin, si l'on peut dire, vers le documentaire de création. Votre travail prend des formes diverses, aussi bien dans l'échange et la co-réalisation que de manière plus solitaire. Vos œuvres documentaires se promènent ainsi du côté de la fiction et des expérimentations formelles, avec un goût prononcé pour le commentaire et l'écriture. À noter que depuis 2007, à Grenoble, vous partagez un atelier Utopia 182. Alors pour commencer cet entretien, Éléonore Gilbert, une question plus générale sur votre relation au cinéma documentaire. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce genre, celui du cinéma du réel, et comment vous en êtes arrivé, par quel cheminement, à travers quelle influence, à réaliser des films qui peuvent rentrer dans cette catégorie?
Eh bien, je dirais que je suis allée vers cette forme pour sa légèreté. Parce que c'est quelque chose qui reste très direct, qui est un petit peu, qui est presque comme écrire un texte. Bien sûr, il y a le tournage, on va dehors, on rencontre des gens, puis ensuite il y a tout un processus pour faire aboutir un film. Mais ce type de cinéma documentaire qui se fait avec une certaine légèreté, pour le moment, me plaît parce que je me sens très libre en fait dedans. Après, peut-être que j'aimerais parfois apprendre à savoir bénéficier des savoir-faire d'autres personnes. Je trouve que c'est intéressant de convoquer d'autres personnes qui amènent quelque chose. Et je crois que c'est vers ça que j'ai envie d'aller maintenant. Mais jusqu'à maintenant, c'était comme se faire la main d'une manière sur le mode du croquis qui va un peu plus loin, enfin qui se transforme un petit peu de film en film.
Demain. Steve, you ever? Steve? Yeah! He wants his keys now. Ladies and gentlemen, Jeppe wants.
Promis, c'est pas Arnaud, hein?
Non, Jeppe, let's go, Arnaud!
Voilà, Miguel!
Je crois pas avoir a priori eu un intérêt particulier pour le cinéma plus que pour d'autres formes artistiques. Je crois que j'aurais vraiment été très heureuse en expérimentant d'autres médiums en fait. Quand j'étais petite, je pensais que plus tard je serais une artiste au feutre, parce que j'aimais bien dessiner avec des feutres. Et peut-être j'aurais dû pousser ça, parce que je voulais faire les beaux-arts justement, et puis... Pour toutes sortes de raisons, je me suis retrouvée à faire Sciences Po à Grenoble. Mais ce qui m'a sauvée, en quelque sorte, ça a été de faire un mémoire sur Les Idiots, de Lars von Trier, qui est un film qui m'a fait réfléchir sur la question de la forme. De proposer à la fiction de se repenser avec les outils du documentaire, en étant Enfin, il y a tout le dogme, là, en étant ici et maintenant, en n'ayant pas de musique extérieure. Enfin, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça permettait... Ce film m'a énormément surprise, en fait. Je suis pas sûre d'aimer de façon globale le cinéma de Lars von Trier, mais sur certains films, je suis subjuguée, comme celui-ci, que j'ai trouvé vraiment renversant, en fait, qui m'aura finalement orientée vers le documentaire, d'une certaine façon. Et puis tout ça m'a amenée à faire une école à Toulouse qui s'appelle Les Saves, où j'ai continué à découvrir ce qu'on appelle le documentaire de création, que je ne savais pas nommer au début d'ailleurs. On nous avait montré, je crois que c'était au tout début, ils nous ont un peu frappé l'esprit en nous montrant L'Ordre de Jean-Daniel Paulet, ce film qui se passe en Grèce, sur une île où il y a des lépreux qui ont été isolés.
Bon, alors, on est en 1904, l'État décide de les enfermer. Voilà. La police les arrête partout et les met dans cette île de Spinalonga, là, juste à côté de la Crète, pour qu'ils y finissent leur jour. Isolés. Dangereux pour la société.
Et qui était à la base un film de commande sur un médicament et qui a été détourné par son auteur. Donc cette démarche aussi de s'approprier quelque chose et d'avoir une parole très, très forte, très directe, d'avoir une empathie avec des personnages qui sont dans un contexte tellement différent du sien. Enfin, voilà, j'ai trouvé que ce film était percutant. Je ne savais pas trop quoi en faire hein, à ce moment-là. Je ne crois pas que je l'avais aimé. Mais justement, je crois que quand on sort du aimer, pas aimer, c'est qu'on est en train d'explorer autrement. J'ai fait des ateliers. Alors, j'ai bien aimé faire des ateliers. Et puis, je me suis mise enfin à faire mes propres films. Mais au début, ça n'avait pas été un vrai film produit. Mais ça a été, je dirais, la première fois que je faisais un film demandé par personne. Et qui est un film qui s'appelle Souvenir imaginaire d'une vie inventée.
Ça fait bizarre pour moi de revenir dans cet endroit-là. Puisque c'est ici où j'ai eu Marco, mon enfant, mon premier enfant et mon seul jusqu'à maintenant. Où j'ai accouché de lui seul. Alors, quand je dis seul, bien sûr, il y avait toute l'équipe d'accouchement, puisque la raison aussi pour laquelle j'avais choisi d'accoucher ici, déjà parce que je suis d'ici, je suis de Villeneuve, mais aussi parce que c'est familial, c'est en petite équipe, il y a assez peu d'accouchements ici. Voilà, je connaissais les gens, je savais qui m'aiderait, qui seraient les hommes, les sages-femmes qui seraient là, seraient là pour moi, uniquement pour moi. Mais j'ai aussi surtout choisi ça parce que j'avais besoin d'être entouré. J'étais seul puisque ma compagne, qui m'a mis dans cette situation pour faire un dessin. Et elle est partie, elle m'a quitté quand elle a su que j'étais... Que j'étais enceinte, je ne sais pas si je la rechercherai, en tout cas j'avais besoin d'être ici, d'accoucher ici, de ressentir le fait que j'étais soutenu par des gens de mon territoire, des gens que je connais, en qui je savais que je pouvais avoir confiance.
Alors oui, on sait qu'une première tentative de réalisation d'un film documentaire a de l'importance pour la suite. Qu'est-ce que ce film, intitulé donc « Souvenir imaginaire d'une vie inventée », ce galop d'essai, a posé comme base pour vos œuvres suivantes?
Alors, je dirais que ce que j'ai appris de ce galop d'essai, c'est... Est-ce que je l'ai vraiment appris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris conscience du repérage. C'est-à-dire que ce film, je l'ai fait, c'était tout de suite. Et en fait, je crois que l'idée m'intéressait vraiment beaucoup et que peut-être j'étais un peu... Comme j'étais un peu effrayée en même temps de faire des films, excitée et effrayée, c'était une sensation bizarre comme ça. Je crois qu'il fallait que ça se fasse vite et puis je n'osais pas le creuser parce que peut-être en creusant il s'effondre, enfin je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre comme ça. Et ce film, à la base, ça devait être un film sur la manière dont une société très capitaliste va entourer l'acte de l'accouchement alors que c'est un moment qui nous rappelle qu'on est des animaux. Et finalement, c'est devenu un film... Ça s'est fait spontanément, on va dire. Finalement, j'ai fini par demander aux hommes de la Ville-Dieu. Je suis partie du principe que les hommes de la Ville-Dieu étaient ceux qui accouchaient. Et que dans cette ville, c'était comme ça. C'était les hommes qui portaient les enfants et qui accouchaient. Et en fait, ça m'a vraiment plu d'expérimenter dans un documentaire cette espèce de rapport à une forme de fiction qui n'en est pas une, c'est-à-dire tout le monde sait que les hommes ne portent pas les enfants et n'accouchent pas. Et là, en demandant aux hommes de raconter ça en disant « on dirait que », ben, je trouvais très intéressant l'idée de « on va raconter des choses vraies de soi en racontant des choses fausses ». Et ça me plaisait beaucoup. Sauf que je pense que je ne l'ai pas assez creusé. Donc c'est pour ça que ce film est vraiment un film plus de l'ordre de la tentative. J'ai fait des très belles rencontres. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais je pense qu'il aurait fallu que je rencontre beaucoup d'hommes. Ou alors que je fasse travailler les gens sur leurs récits. Là, je prenais un peu le premier récit qui venait. Donc c'était rigolo. La maladresse était intéressante. Mais peut-être que derrière cette maladresse intéressante, j'aurais pu trouver encore autre chose. Et c'est cette autre chose que je ne suis peut-être pas allée chercher. Et je crois que ça m'a fait prendre conscience que faire un film peut être une démarche un peu plus longue, un peu plus complexe, et que en fait cette émotion qui m'envahit comme ça, c'est pas grave en fait. On la traverse et puis ensuite on en traverse une autre et puis une autre.
J'aurais envie si on fait ça. Si je me vois, je veux bien. Oula. Ça m'énerve parce que les garçons à l'école, ils nous interdisent de jouer au foot et tout ça, et puis même de jouer à des jeux avec les ballons. Et puis, moi j'aime bien jouer au foot, donc c'est pas super, il y en a plein qui s'en fichent. Mais en fait, le pire, c'est qu'ils nous interdisent, mais en plus, du coup, on est obligé de jouer à autre chose, mais c'est pas grave parce que j'ai pas toujours envie de jouer au foot. Et puis, le problème, c'est que ils ont beaucoup de terrain dans la cour, puis des fois ils vont en dehors des terrains et du coup on a encore moins de place parce que les terrains ils occupent presque toute la cour.
Votre court-métrage Espace, datant de 2014, qui je le rappelle est visible sur la plateforme Les Yeux d'Oc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que ce court-métrage reflète de votre cinéma et de la forme qu'il peut prendre? Je rappelle que Espace, c'est un plan-séquence, même s'il y a quelques coupes, où une jeune fille raconte, à l'aide d'un dessin, d'un schéma, comment ses camarades garçons occupent davantage d'espace que leurs camarades filles dans la cour de récréation.
C'est un film que je n'ai absolument pas prévu, mais pas du tout. Ce que j'ai essayé de faire au moment de faire ce film, c'est de retenir ma respiration, d'être en apnée quasiment. Parce que je voulais vraiment ne pas intervenir dans la parole de cette petite fille. Et puis, à un moment donné, j'ai dû intervenir parce que, en fait, c'était compliqué pour elle de tout porter. Moi, je voulais vraiment faire un plan-séquence, ce qui est quand même le cas de la moitié du film, c'est 7 minutes de plan-séquence. Puis ensuite, il y a un échange de questions où je raconte pas grand-chose dans mes propres questions pour laisser cette petite fille s'exprimer. Et je dirais que ce film n'a pas été préparé. Après, il est bien évidemment, à un moment donné, on est attentif à certaines questions parce qu'elles traversent notre existence, parce qu'on se construit avec. Et moi, à Grenoble, j'ai l'impression d'avoir rencontré une pensée féministe que j'ai trouvée vraiment pointue et intéressante, qui m'a peut-être permis, à un moment donné, de me dire « Tiens, cette parole-là, c'est pas juste une gamine qui me raconte ses histoires perso à la cour dans la cour d'école, c'est une résonance avec être une femme dans l'espace public, comment est-ce qu'on se fait entendre, comment est-ce que quand on est dans une situation minoritaire, on arrive à ce que quelque chose qui est considéré comme un problème pour soi et pas pour les autres puisse l'être. Donc voilà, à un moment donné, moi j'étais quand même baignée de tout ça, ce qui fait que j'ai pu donner une valeur à cette parole. Mais après, c'était vraiment ce que cet enfant avait à dire qui était important et je ne voulais pas le driver, quoi. Donc j'ai vraiment fait ce film un peu sur la pointe des pieds. Et grâce au fait que j'avais ma caméra chez moi à ce moment-là. Sinon, je pense qu'il aurait... Enfin, je veux dire par là, il aurait fallu installer un dispositif, mettre une jolie lampe et tout ça, bah peut-être que la gamine, elle aurait plus voulu parler. Là, il y a eu vraiment quelque chose qui est de l'ordre du jet continu, quoi. Mais en fait, pourquoi est-ce que toi, tu joues pas avec les garçons au foot?
Parce qu'en fait, il y en a plein qui me l'interdisent, mais pas tous. Mais plein parce que, en fait... Ils veulent pas que je joue parce que je suis une fille. Mais en fait, il y en a à peu près la moitié dans le huitième, je sais pas comment on dit. Il y en a la moitié dans le huitième qui veulent bien, mais
Alors évoquons un instant le côté expérimental de votre œuvre. Avec des films qui peuvent relever de cette catégorie, Je suis une femme seule dans la peau blanche, Hôtel Echo ou Mars côté Nord, qu'est-ce que vous expérimentez avec ces films? Quelles sont les intentions de ces essais?
Moi je crois que ça m'intéresse tout autant de faire du cinéma qui soit plus direct, comme avec Espace, mais que les situations ne se sont pas forcément présentées. Mais c'est vrai que, par exemple, là, je suis en train de faire un film où je reviens un peu plus à ça. Parce que je crois que je fatigue d'être dans quelque chose qui me semble un peu ronronné, avec de la voix off, très écrite. Parce que c'est un peu le cas des films que vous avez cités. Mais je crois que, en fait, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on est. Et c'est vrai que comme j'ai quand même un... Teint le Paradis est le premier film où j'ai des personnes qui viennent filmer avec moi. Sinon, c'est moi qui fais tout. Et en fait, j'aime bien écrire. Et puis, paf, je peux m'enregistrer. Et puis, donc ça se fait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté travail qui sort du tiroir. Enfin, c'est assez intime, finalement, cette façon de travailler. Et l'écriture est quelque chose d'intime. Et je crois que, pour le moment, les films que j'ai faits sont peut-être... un peu radiophonique, par exemple, sont peut-être un peu des textes qui rencontrent des images. Enfin, parfois, je me dis peut-être que c'est pas complètement des films, d'ailleurs, parce que en fait, le rapport au texte est un endroit par lequel je passe. Et là, je suis assez contente de à nouveau m'en passer pour le prochain film que je fais, mais en même temps, j'ai pris énormément de plaisir à trouver cette écriture, par exemple, dans Hôtel Echo. Au début, le texte était très très long, et puis c'est vraiment réduit, puis c'est devenu des images beaucoup plus suggestives et évocatrices pour rencontrer les images du film qui ne sont jamais une illustration de ce qui se dit, qui n'ont aucun rapport, mais qui tout d'un coup vont se rencontrer. Et j'adore ce moment où le texte devient... Il y a très 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 peu de mots, en fait, qui restent par rapport au début. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est comment l'image vient compléter des choses que les mots semblent, là où les mots semblent tellement nécessaires, et là où en fait ils peuvent complètement s'évanouir, mais il en reste quelques-uns pour créer cette espèce de rencontre. Donc c'est vrai que j'ai fonctionné comme ça jusqu'à maintenant.
Effectivement, dans plusieurs de vos films, le commentaire est là, présent, assez important pour qu'on se dise que votre rapport aux mots, à l'écriture, a une place conséquente dans votre façon de faire des films. Y a-t-il eu des cinéastes qui vous auraient inspiré pour trouver votre propre utilisation du commentaire en tant qu'outil cinématographique à part entière? Ou alors est-ce que ça part d'une nécessité, d'une façon de vous exprimer qui ne pouvait finalement pas se faire autrement?
Ouais, je crois que c'est plutôt le côté qui ne pouvait pas être autrement, parce que je crois qu'on fait avec ce qu'on est, et puis en fait, sans être une personne qui lit énormément, j'ai quand même été très très touchée par la lecture durant mon adolescence. Donc plus que les films, je crois que c'est les livres. J'ai souvent l'impression que l'émotion que me provoque un livre est bien plus forte que l'émotion que me provoque un film. Et puis c'est marrant parce qu'il y a aussi des choses qui nous... Par exemple, récemment, j'ai revu les films de Tarkovsky. Je crois pas que je les avais vraiment bien vus, et peut-être qu'ils m'ont pas tellement nourri. Et là, en les voyant, j'étais complètement subjuguée. Et je trouve que lui, il a un rapport à l'écriture aussi qui est particulier, un rapport aux mots qui sont parfois dans l'image, parfois qui semblent flotter quelque part. Enfin, tout d'un coup, j'ai vraiment été fascinée par cette forme assez hybride quand même qu'on trouve dans ces films. Mais j'étais bizarrement... J'étais pas passée à côté, mais j'en avais vu que deux, en fait. Donc je connaissais pas tellement sa filmographie. Et après, je trouve que tout est inspirant, mais ça veut pas dire qu'on est... Enfin, moi, il y a des choses que j'adore, mais je pense... Par exemple, il y a un film qui... Le dernier film qui m'a subjuguée, c'est La Cienaga de Lucrezia Martel. Ben, je pense pas du tout être capable de m'inspirer d'elle. Je ne comprends pas du tout comment elle fait. Je suis atterrée, en fait, par ce film. Je l'ai vu plein de fois, il s'épuise jamais, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette matière-là qui est mise en œuvre? Et ça me touche, ça m'inspire, mais je vais pas le reproduire pour autant. Moi, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de très simple, hein, avec ma façon de fonctionner, mais que de toute façon, c'est là que je suis. Je peux pas être ailleurs pour le moment.
Et dans le travail avec le commentaire, il n'est pas question que d'écriture, de mots, de phrases, mais aussi de la manière dont on dit le commentaire. Est-ce que chez vous, il y a eu justement un travail, un effort pour trouver votre diction, le ton qu'il faut, votre façon de poser votre voix, ou alors est-ce que c'est venu tout seul, naturellement ?
Je crois que vraiment ça, c'est quelque chose d'assez... qui est venu assez simplement. J'aurais bien aimé être une chanteuse. Et je pense que ça doit être cette frustration. j'ai pas le rythme, c'est ça le problème. Donc j'ai un petit peu chanté dans un groupe, mais les musiciens étaient obligés de me suivre, donc c'était compliqué. Et je crois que c'est pour ça que je fais des voix off. C'est parce que je ne chante pas. Et j'ai pas trop de difficultés à les faire. Par contre, elles sont un peu toujours avec la même tessiture. Je suis pas une actrice, donc c'est vrai que je suis dans une proposition qui est quand même d'une certaine manière, on va dire.
Ce qui m'angoisserait serait un monde où il n'y aurait presque pas de zone de faille. Un monde où on ne pourrait plus se glisser. J'ai parfois l'impression que ça se resserre.
Alors venons-en à Teint le paradis ou la balade d'Héloïse, votre dernière réalisation à ce jour. Comment est né ce projet de film ? Quel a été son point de départ ?
Alors pour Teint le paradis, je crois que c'est venu d'un texte aussi. C'est venu d'un texte et c'est venu de plein de... C'est un film qui se base sur quelque chose de très anecdotique. Et en fait, c'est venu de plein de petits heurts ressentis dans le quotidien, plein de moments où en fait je me disais mais comment ça se fait que ça se passe comme ça, et on me disait tiens il y a ça qui a changé, et en fait à chaque fois de se dire mais en fait c'est important ce qui se passe, et puis c'est complètement aspiré par une espèce d'idée de fluidification de technique, puis bon on n'en parle pas, et en fait bien sûr il y a des gens qui en parlent, mais j'ai eu envie juste de m'arrêter sur des choses que je trouve en fait très violentes et qui passent à l'as, comme ça, comme si de rien. Comme je prends beaucoup le train, c'est sûr que je suis attentive à ce qui se passe avec le train. Et le moment où le billet est devenu... Je me souviens de l'époque où il y avait un truc qui s'appelait troc des billets. On pouvait échanger son billet, et en fait, à un moment donné, on nous dit « Tu vas plus donner ton billet à quelqu'un. T'as pas le droit. C'est que à toi, et ça devient une sorte de passeport. » Mais en fait, je trouve ça dingue. Tout d'un coup, il y a comme je dis dans le film, il y a le prénom, le nom, l'âge, le sexe. Bon, ben, c'est un petit passeport. Puis maintenant, bam, on va mettre des barrières carrément. Et en fait, cette idée de... Avant un voyage, tu pouvais acheter ton billet, puis finalement, tu partais pas, tu le filais à quelqu'un d'autre. Et maintenant, on n'a pas le droit de faire ça. Oh, ben, je trouve ça glauque. Alors, on peut dire c'est ce qui se passe avec l'avion, mais c'est du train, justement. On est sur Terre, enfin... On est dans quelque chose... Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Pourquoi on a rajouté une frontière là, à cet endroit-là, sur les quais ? Pourquoi il y a ça ? Et pourquoi il faut, en plus, ça passe par des machines ? Alors bien sûr, on peut l'imprimer, tout ça, mais moi je me rends compte, mon téléphone il est tombé en panne, ça devient compliqué. Alors il faudrait pas que j'achète sur Internet, mais il y a presque plus de guichets. Enfin, cette espèce de façon d'obliger à venir à un certain rapport au contrôle qu'on va soi-même mettre en œuvre avec nos petits outils personnels d'autocontrôle. En fait, je trouve ça terrible comme proposition. Et puis, voilà, donc dans ce film, c'était l'idée de dire, bah, en fait, il y a ces choses qui se passent, et puis, comme c'est un peu, bah, c'est le quotidien, comment on pourrait les retenir pour se dire, regardons-les quand même. Et voilà, et ensuite, pareil, sur quand le mot dématérialisation est apparu, j'ai trouvé très très beau ce mot. Et je trouvais marrant qu'on dise ce grand mot gigantesque, si joli. Et en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc qui nous dit que c'est mieux là où c'est pas ici et maintenant. Qui nous dit toujours, allez sur un site. Il y a quand même une idée de pas être là, quoi. Et je trouve ça extrêmement troublant. Et donc, j'ai essayé de faire un film avec cette parole qui est un peu une parole de simple, hein, de la madame tout le monde que je suis. Mais je me suis dit, en même temps, je trouve qu'il y a des choses politiques qui sont derrière. Il y a un rapport à la liberté et au contrôle qui est quand même bien mis en œuvre. Quand je parle du truc de la pharmacie où on paye au robot, bah, pour moi, c'est troublant en fait que la personne qui me sert n'a plus aucun pouvoir sur l'argent. Et donc, l'espace de négociation de 10 centimes disparaît. L'espace de négociation entre nous disparaît. L'autre fois, je vais dans un bar et je demande j'avais un quart d'heure, je demande un galopin. Et les jeunes hommes que tenaient le bar, ils me disent, bah, on n'a pas la touche sur la machine, donc on ne peut pas vous le faire. Je trouve ça nul, en fait. Je trouve ça nul. Alors du coup, j'ai pris un demi, puis j'avais à fond la caisse mon demi. Alors, ça peut être une question d'argent, ils ne veulent pas faire des galopins parce que ce n'est pas assez rentable, mais en fait, ça veut dire quoi d'avoir un bar et de ne pas pouvoir faire un galopin à quelqu'un qui n'a qu'un quart d'heure? Ça raconte quoi comme type de société? Tout est verrouillé. Et ces jeunes gens, ils étaient gentils comme tout, mais il n'y avait pas la touche sur la machine, donc elle est plus forte qu'eux. Et ça, moi, je comprends pas qu'on soit toujours en train de mettre des machines entre nous plus fortes que nous. Ça me déroute, en fait. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas pourquoi c'est mieux, en fait. Pourquoi c'est mieux qu'il y ait une touche sur la machine? Parce que, du coup, on est sûr qu'ils vont pas... ça doit être des employés, puis ils vont pas faire à l'œil des bières à leurs potes. Ah, surtout, il faut pas... Alors que, en fait, heureusement qu'on peut offrir des petits trucs de ci, de là. Heureusement que ça glisse. Un monde où rien ne glisse, où tout est tenu, je trouve ça très très limite, quoi. Et voilà, j'ai voulu faire ce film un peu pour parler de ça. Je l'ai fait de façon assez légère. Pour moi, c'est un test. J'essaye un truc avec ce film, je sais pas si j'y arrive. Mais j'essaye un truc. Peut-être j'aurais voulu qu'il soit plus vertigineux. Il est plutôt poétique que vertigineux. Mais voilà, au moins j'ai essayé de raconter le plombier qui vient chez moi et qui est complètement fliqué parce que quand j'ai signé sur la tablette... bam bam, on sait qu'il a fini. Et voilà, je trouve tout ça, faudrait le raconter, faudrait se dire, mais pourquoi c'est mieux, en fait? Pourquoi c'est mieux qu'il y ait tout ça, là? Donc voilà, c'était ça, la tentative de Tint le paradis.
C'était encore dans le train. J'avais eu la mauvaise idée d'acheter une carte de réduction qui ne m'a presque pas servi. Je la cherchais, mais juste 2 secondes. Et la contrôleuse me dit, vous pouvez dématérialiser votre carte en allant sur le site, etc., etc. Souvent, quelqu'un me dit d'aller sur un site alors que je suis là devant. Mais là, c'était la première fois que j'entendais dans un dialogue assez banal avec quelqu'un le mot dématérialiser. Comme ça, dans un contexte pas du tout spirituel ni philosophique. Que ce mot, ça pourrait donner l'impression de ça, de philosophie, de pur esprit. C'est un sacré mot quand même, dématérialisé. C'est presque comme une chose magique. Et là, dans une ambiance un peu plan-plan, il y avait cette femme qui faisait son boulot de contrôleuse et qui me suggérait une dématérialisation. Je crois que j'ai eu une vision à ce moment-là.
Alors c'est un film, on vient de l'évoquer, et on vient même de l'entendre, qui commence dans le train, et en fait on ne quitte quasiment jamais ce mode de transport. C'était quoi votre relation au train avant, au ferroviaire, au chemin de fer, ou à la Société Nationale qui, depuis 1945, le gère peut-être?
Ouais, c'est vrai qu'à l'origine, j'avais un attachement à la SNCF, mais qui est en train de disparaître. Quelque part, le fait que mon grand-père était cheminot a beaucoup fait exister le train dans ma famille, parce que ma grand-mère et mon grand-père avaient le train gratuitement, du coup, c'était pas des gens riches, mais ils pouvaient prendre le train. Et mon père, quand il était jeune, tant qu'il étudiait, il avait le train gratuit alors qu'il avait pas de rond. Donc ça faisait quelqu'un de pauvre, mais qui voyageait beaucoup. Et après, moi, j'ai longtemps eu un compagnon en Italie, et je vivais à Grenoble, et donc j'allais à Florence en train. Donc ça fait que j'ai eu des paquets de trains dans mon existence, qui fait que j'ai pu vraiment me le coltiner, voir plein de types de wagons différents, tout ça. Et c'est vrai que je commence à en avoir un petit peu marre du train, mais c'est quand même un mode de transport que j'aime, parce qu'en fait, on ressent vraiment là où on passe. Contrairement à la voiture, on voit plus de paysages. Enfin, je parle de la voiture en autoroute, parce que l'autoroute, c'est vraiment une non-rencontre avec l'espace. Je trouve que le train est quand même une rencontre avec les espaces. On voit des espaces traversés différents. On voit des changements d'ambiance aussi. Quand on prend... l'autre fois, il y a un train, il fait Madrid, Marseille-Madrid. Bon, ben, il y a des espèces de transformations dans les 10 heures de train. Et j'aime bien. Je trouve que c'est chouette. Et en fait, j'ai voulu que ce film soit dans le... Je ne savais pas au début où il serait, ce film. Dans le paradis, au début, je pensais que cette fille qui parlait, c'était quelqu'un qui était... À ce moment-là, je travaillais dans un hôpital psychiatrique. Et je m'étais dans un hôpital psychiatrique assez, entre guillemets, beau, un peu à l'ancienne, avec des pavillons, beaucoup d'espace extérieur. Une ambiance un peu bizarre. De toute façon, c'est un peu bizarre quand même, tout ce qui est hôpital et tout ça. Et j'avais envie que cette Héloïse, elle soit là. Peut-être qu'elle soit à l'hôpital et qu'elle soit suffoquée par la société. Donc c'était un peu plus une fiction. J'avais imaginé qu'elle existe, en fait, physiquement. Et puis je me suis rendu compte que ça marchait pas, c'était faux. En fait, j'avais voulu rencontrer des gens qui avaient une maladie psychologique d'être suffoquée de tout ça. J'imagine que ça peut exister. Et en discutant, j'ai vu que ça n'existait pas du tout, qu'il y avait plutôt des gens qui étaient addicts. Mais en fait, c'est un peu la même chose quand même, moi, je pense. Mais bon, bref, j'ai senti que je plaquais un peu des choses et qu'il fallait mieux que j'assume ça à un niveau plus pour ce que c'était. C'est-à-dire, c'est un texte qui devient une voix, qui devient un personnage dont je vais chercher les corps dans les figurants, parce que je ne fais pas ce film contre les gens, mais je propose que ce soit quelque chose qui traverse tout le monde. Et donc, comme la première histoire parle de train, je me suis dit, mais c'est ça. Ça commence dans... Cette nana, elle veut prendre le train. Et puis, elle va être empêchée. Enfin, elle va être empêchée. Elle va devoir prendre des petits trains. Elle va devoir être sur les bords, en fait.
C'est comme à la mer. Cette fois, j'étais à la mer avec un garçon. Quelqu'un que je ne connaissais pas très bien. Un ami d'amis. Et c'était une balade tout seul, tous les deux, sans bien savoir ce qu'on faisait là, ni combien de temps on allait être à marcher tous les deux.
Autre aspect de l'imprégnation du tout numérique et de la technologie dans nos vies, et nos vies intimes aussi, qui est évoqué, ou plutôt même dénoncé dans votre film, c'est cette tendance à évaluer ce que l'on fait, à noter les moments que nous vivons, à commenter ce qui nous arrive. Je pense là à l'anecdote que vous racontez en off, votre promenade avec un garçon près de la plage et qui est gâchée par l'arrivée d'un message sur son téléphone portable.
Je trouvais ça rigolo qu'il y ait entre guillemets une histoire d'amour dans le film. Quand on était avec le monteur, on se disait il y a les ingrédients qu'on peut retrouver dans pas mal de films. Et là, l'histoire d'amour est un petit peu... Il y a un tue-l'amour qui arrive.
Et au moment de quitter la longue plage et de remonter vers la berge, son téléphone s'est mis à faire du bruit. Et sans faire exprès, parce qu'on était tout près, presque à se toucher, j'ai vu par-dessus son épaule évaluer votre promenade sur la plage.
Et en fait, tout d'un coup, je trouve ça terriblement... en fait, je trouve que c'est terrible de devoir juger ce qu'on vit. En fait, moi, je me rends compte que la plupart du temps, je ne sais pas si ce que je vis me plaît ou pas. Je n'en ai aucune idée. Je le vis, c'est tout. Et puis en fait, je crois qu'il y a la souffrance totale qui nous fait savoir que c'est vraiment pas bien ce qu'on est en train de vivre. Il y a parfois des moments d'excitation, mais en fait, la plupart du temps, moi, je n'ai aucune idée si ce que je vis me plaît ou pas, parce que c'est pas la question, en fait. Et je crois que c'est... Voilà, je suis souvent suffoquée par ce truc de l'évaluation, alors qu'on trouve sur des choses toutes bêtes, hein, une fois de plus la SNCF ou je sais pas trop quoi, ou Pôle emploi ou je sais pas quoi, on reçoit des mails qui disent voilà, est-ce que vous pouvez évaluer, et c'est des mails auxquels on ne peut pas répondre. Donc c'est une espèce d'absence totale de dialogue qui proposerait quand même de donner son point de vue sur une prétendue relation qu'on aurait eue. C'est de l'arnaque de bout en bout, cette histoire d'évaluation. Parce que en fait, quand on nous demande d'évaluer quelque chose, on nous a déjà enfermés. On est déjà au fond de l'entonnoir. Alors que en fait, discuter, échanger sur quelque chose, là oui, il se passe quelque chose. Mais en fait, évaluer, ça correspond à quoi ? Et en fait, ce truc de l'évaluation, alors qu'on trouve beaucoup dans des situations un peu anonymes que je viens de décrire, j'ai eu envie de montrer comme ça venait aussi dans des situations d'intimité totale. Et que là, ça venait complètement dans un tue-l'amour. Enfin, dans une situation d'amour pour la tuer. Voilà. Et puis, voilà, c'est le moment un peu plus... Le ton est un peu différent dans ce passage du film. C'est un peu plus... Je me suis permis d'avoir une voix un peu moins littéraire, des moments un peu plus entre guillemets vulgaires. Je sais pas si j'ai eu raison ou pas, mais c'était un moment où pour moi ça, c'était comme un j'en ai marre quoi, un petit craquage.
D'ailleurs, petit élément de montage assez significatif, lorsque s'achève la scène où vous racontez en off l'anecdote de la contrôleuse qui vous a parlé de dématérialisation, ce point de départ vers une réflexion plus générale, vous enchaînez sur un plan travelling latéral, sur un de ces écriteaux qui ornent les caténaires électriques des voies ferrées et où l'on peut lire « danger de mort ». Et c'est tellement proche qu'on peut supposer qu'il n'y a pas eu de hasard dans l'enchaînement de ces deux éléments, non ?
Oui, bah, c'est vrai que en fait, dans cette ode à la dématérialisation qui nous est quand même servie, je trouve, beaucoup, ne plus avoir de corps, c'est mourir. C'est ça aussi. Et en fait, dans cette espèce de rejet de l'ici et maintenant, il y a une espèce d'effacement aussi de l'être. C'est un peu grossier de le dire comme ça, mais c'est vrai que je me suis permis des choses un peu grossières comme ça dans le film, avec des éléments de montage qui passent pourtant assez rapidement. Y a quelque chose que j'essayais de faire avec ces écriteaux que je trouvais, que je rencontrais, qui était aussi de ne pas non plus vouloir proposer une parole docte, mais dire faisons des jeux de mots, essayons de jouer avec ça. C'est grave et puis en même temps restons joueurs parce que en fait le but c'est pas d'être de s'auto-assommer mais c'est d'essayer de se dégager plutôt, je dirais.
Dans un instant, notre train desservira la gare de Montastruc.
C'est vrai qu'il y a une attention particulière dans votre film au nom de certaines villes, aux appellations des lieux, notamment des gares, ces petites gares où la balade d'Héloïse vous a donc mené. Alors on vient d'entendre Montastruc, mais il y a aussi Orchamps, Saint-Amour, Sainte, Grande-Sainte, Mouchard, Aime, la Plagne, Tain le Paradis évidemment. Est-ce que vous pouvez développer la raison qui a fait que ces étonnants noms vous ont autant intéressé ?
Bah, je trouvais ça rigolo. En fait, c'est vraiment comme j'ai voulu que mon film soit dans un train. Je sais plus trop comment, je suis tombée sur un truc de la SNCF où il y avait la liste de toutes les gares. Et j'ai lu toutes les gares, enfin, j'ai pas fini complètement, c'était hyper long. Et en fait, je sais pas exactement comment c'est venu, peut-être je suis tombée sur des gens qui relevaient une blague avec il y a un endroit qui s'appelle Arnaque La Poste par exemple, c'est assez rigolo, mais c'est pas une gare. Puis de toute façon j'avais pas vraiment de raison de, enfin il aurait fallu que je fasse un truc autour de La Poste qui est en train de se dématérialiser aussi. Montastruc, j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit tu peux pas prendre le TGV parce qu'on t'a mis des barrières et on te demande de venir avec ton sexe, ton âge et compagnie, et bah tu vas monter à ce truc. Et je trouvais ça charmant en fait. Et après, l'idée de la dématérialisation telle que j'en parle, c'est que je trouve qu'en fait c'est ce mot m'a d'abord fait penser à du spirituel et du divin, le mot dématérialisé, parce que en fait c'est la religion, je trouve, qui propose d'être dans un rapport, je sais pas comment dire. De peut-être se dégager de son, je sais pas si c'est la religion ou la méditation, mais en tout cas ça me faisait penser à des démarches plutôt spirituelles, on va dire. Et en fait, à un moment donné, je me disais, d'un côté ce mot il me fait penser à ça, puis d'un autre côté, quand tu vas quelque part et puis que en fait il y a une machine qui est armée à lire le QR code qu'il y a sur ton ticket, ça c'est tout. Tu peux plus jouer à montrer ton billet puis le passer à un copain et puis toutes ces petites arnaques qui sont mignonnes comme tout et qui sont le fait qu'on est vivant et que en fait c'est des choses que il y a des âges où on fait ça, puis après on le fait plus, puis il y a des moments dans la vie on a de l'argent, d'autres moments non, et on peut avoir ce que j'appelle un peu un espace de négociation avec le avec ce qui est complètement strict. Et là tout d'un coup tout passe sous une surveillance, et ça c'est le gars qui vient réparer la chaudière, ça c'est qu'il a fini, c'est-à-dire la boîte qui l'emploie en fait. Et ce ça qui sait qui n'est pas ici présent, moi ça m'a fait penser quand même à une certaine image de Dieu. J'ai repensé à des films, je sais plus, il y avait un film italien où le prêtre disait au petit garçon que s'il se masturbait, Dieu le voyait. Et donc Dieu te voit. Et là, bah Dieu te voit. Et du coup, je me suis dit, entre la dématérialisation et ce sentiment qu'on a mis entre nous, un espèce de machin qui sait mieux que nous, je me suis dit, il faut que je file la métaphore. Donc j'ai cherché des gares qui parlaient de religion, en fait. C'est pour ça qu'il y a Croix Sainte, c'est pour ça qu'il y a Sainte, Grande Sainte, il y a Dépôt de Sainte à un moment. Après, j'ai bien conscience que tout le monde ne rentre pas dans la logique sémantique que je propose. C'est peut-être... voilà. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça résonne, d'autres moins. Voilà.
Quand je me suis réveillée, il y avait une radio allumée quelque part, je ne sais pas où j'étais. Un homme parlait. Un musicien, je pense. Car il disait que plus personne ne partait en claquant la porte quand il faisait ses concerts. Et il avait l'air de le regretter. Plus personne ne venait sans déjà savoir à quoi s'attendre. Il n'y avait plus d'accident, disait-il. Je me suis rendormie.
La construction narrative du film est donc une balade en train dans la géographie française donc, mais le film donne aussi l'impression d'être une promenade dans le temps, dans le passé, avec des plans en pellicule qui évoquent des films de vacances en famille. Vous mêlez donc des archives familiales au plan du présent des trajets en train. D'où proviennent ces extraits de films? Quelle était votre intention en les insérant dans le montage?
Alors en fait, comme moi-même, j'ai filmé, je pense, avec au moins 8 appareils différents qui avaient parfois du grain, parfois pas, etc. J'avais envie de poursuivre un petit peu ça en allant chercher des images faites encore avec d'autres modalités, notamment de la pellicule. Et mon but n'était pas du tout, et j'espère que ça se ressent pas trop comme ça, c'était pas du tout de dire « voici le passé ». C'était plutôt... Il y a effectivement un voyage géographique un peu absurde entre ces gares, qui va être une certaine linéarité, et il y a un espace de pensée qui est convoqué, et j'avais envie qu'il soit comme si trouver une sorte d'épaisseur. Je ne sais pas comment dire, sur les tableaux il y a X, Y, et puis j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle cote, qui est plus dans la profondeur, et en fait c'était pouvoir être dans un rapport au temps qui soit un peu plus large, et qui convoque effectivement quand même un temps qui a pu être avant, mais c'est-à-dire comme une espèce d'espace de souvenirs un peu dense. Après, ce ne sont pas mes archives à moi, c'est des archives que j'ai récupérées grâce à Cyclique, qui est en Loire, je crois, qui était extrêmement sympa, enfin extrêmement arrangeant. Toutes leurs archives, les archives familiales sont mises en ligne, mais après pour les récupérer tout ça c'était assez simple et j'ai trouvé agréable de pouvoir travailler comme ça, et ça m'a permis de les utiliser parfois. C'était assez agréable quand on faisait ça avec le monteur, parce qu'on trouvait que ça marchait sans savoir pourquoi. Quand il y a ce truc de dématérialisation, à un moment donné il y a quelqu'un qui est à côté d'une tente et puis qui lève le bras, à un moment donné il y a quelqu'un qui est dans un tipi et ça évoque un peu ce truc de chaman, on parle de spiritualité, mais c'est très bref, on s'arrête pas forcément dessus et on ne sait pas pourquoi ça marche, enfin, on considère que ça marche, mais ça crée des évocations comme ça qui ne sont pas forcément dans une... dans un, il n'y a pas le désir de dire, d'avoir une dialectique très claire, mais plutôt de faire jaillir des choses, en fait, qui sont appropriées ensuite par tout un chacun et qui sont, en fait, pour moi... ce qui se passe quand on est dans le train et que je n'ai pas pu filmer en direct. C'est-à-dire quand on est dans le train, on isole une scène avec notre regard et pendant quelques instants, on la voit bien. Et ça, j'ai essayé de filmer comme ça, c'est très dur. Ça fait des moments où on a un peu... Ça, c'est Jivko Darakev qui l'a fait, où en fait, il filme et hop, il tourne la caméra. Il filme et hop, il tourne. Donc ça fait un peu ça, mais en fait, le sentiment qu'on a, c'est quand on le vit soi-même, c'est qu'on arrête beaucoup plus la scène. Et du coup, je me suis dit, puisque je n'arrive pas à le faire, ben, j'incruste des scènes qui n'ont rien à voir, mais qui pourraient y être, en fait. Voilà.
Et hop, ben revenons pour finir justement à la fin du film, la fin de la fin, si l'on peut dire, à savoir la musique du générique final que nous avons entendue au début de cette interview, la chanson italienne Ma che freddo fa, interprétée par la chanteuse Nada. Pourquoi cette chanson précise pour terminer Tint le paradis ou la balade d'Héloïse?
Alors, en fait, pendant le montage, à un moment donné, je me souviens, le producteur, qui est Raphaël Pilosio, de l'atelier documentaire, avec qui j'ai fait 3 films, me disait, ça serait peut-être pas mal que tu trouves une musique, là, pour un moment. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre de la musique, je pense que c'est super difficile de mettre de la musique dans un film, parce que ça prend tout l'espace, la musique. C'est hyper puissant. Et je me sens pas capable, en fait, encore d'être face à cette puissance. Mais je trouvais son idée pas mal. Parce que de toute façon, ce film, il était pas tout à fait. Je savais pas trop ce que j'étais en train de faire. Ce film, je comprends pas bien ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, je suis pas toujours en phase. Je suis contente. En même temps, je me dis, est-ce que. Enfin voilà, je suis un petit peu. C'est un peu un endroit de questionnement pour moi. Et je me suis dit, allez, cherchons. Alors j'avais trouvé des musiques qui étaient hyper, une musique que j'adore. Je ne saurais même plus la citer, mais ça faisait vraiment passéiste. Donc ça marchait pas. Et puis. C'était dur de trouver parce que voilà, ça c'est trop signifiant. Et finalement, je sais plus trop comment, je tombe sur cette chanson. Bon, il se trouve que j'avais quand même un rapport à l'Italie assez marqué dans ma vie à ce moment-là. Et je la trouve géniale. J'adore son énergie et j'aime bien ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce qui fait froid? Mais qu'est-ce qui fait froid? Même si, bien sûr, elle parle d'amour et tout ça. J'essaye de la mettre, et puis en fait, ça marchait pas. Je me dis, non, en fait, c'est artificiel de mettre de la musique. J'avais des grandes idées comme ça, tout d'un coup, qui revenaient, puriste. Et puis, au moment du mixage son, je propose au monteur son, je lui dis, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses si jamais on mettait ça? C'est bien, parce que ça permet de... Ça donne une touche un peu plus... En tout cas, ça permet de finir sur quelque chose de moins grave. Alors que sinon, ça fait un peu, voilà, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Alors que là, on finit, on reprend une légèreté, et en même temps, on dit, on a cette chanson dont on ne comprend pas forcément les paroles quand on est français, qui dit quand même qu'il fait froid. Et donc, qui dit, réchauffons-nous aussi. Et je la trouve belle, donc ça m'a plu. Et puis, j'ai fait ce générique multicolore, un peu naïf. Donc, je crois qu'il y a... dans ce film, je cherche un peu quelque chose, une forme. Ça aussi, à un moment donné, je trouve que ça allait bien avec l'idée de paradis. Les couleurs du dernier plan aussi, elles sont toutes dégradées. C'est des couleurs que j'ai essayé de reprendre dans le générique. Et cette chanson, je trouve que c'est... Voilà, ça donne un... Ça met en mouvement, il me semble.
Merci Éléonore Gilbert.
Merci Benjamin.